Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité, comme la semaine dernière, sera Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative Économique. Alors, la semaine dernière, nous avons déjà parlé avec Christian Chavagneux des paradis fiscaux à l'occasion de la sortie du petit livre qu'il a écrit avec Ronan Polan, qui s'appelle donc « Les paradis fiscaux » aux éditions La Découverte et dans la collection Repère pour la modique somme de 8,50 €. Vous aurez un livre absolument pédagogique sur ce sujet. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes encore plus sous-doué que l'animatrice de Dessous. Alors, pourquoi une deuxième émission? Ben justement, parce que là, j'avais compris ce que c'était un paradis fiscal. Mais il y avait une petite partie qui m'intéressait dans le livre, enfin dans l'introduction du livre de Christian Chavagneux qui disait « Les paradis fiscaux sont tout bonnement l'un des piliers sans lesquels la mondialisation économique contemporaine ne pourrait pas fonctionner. » Et bien justement, c'est ce qu'on va voir dans cette émission-ci. Finalement, les paradis fiscaux, on se dit que c'est une histoire de filous, mais d'un autre côté, on se dit « Mais des filous, il y en a toujours eu. » Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a une accélération quand même de la place des paradis fiscaux. Ils sont devenus plus importants. Ils ont un rôle plus particulier dans l'économie. Ou finalement, ça a toujours été comme ça, c'est peut-être pas la peine qu'on s'énerve.
Non, les paradis fiscaux, ils commencent vraiment à jouer un rôle important à partir de la fin des années 60. On peut retrouver, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, quelques petites utilisations ici ou là. D'ailleurs, dès 1920, la Société des Nations se préoccupait de savoir comment encadrer le développement des paradis fiscaux. Mais ça touchait à l'époque surtout des gens très riches, quelques multinationales, mais vraiment à petite échelle. La véritable explosion des paradis fiscaux, c'est à partir de la fin des années 60. D'une part, parce que il y avait ce qu'il fallait avec le marché des euro-dollars et les débuts d'une place financière offshore, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle public. Donc il fallait déjà que ce marché il existe. Or, il existe depuis 57. Et puis, à partir de la fin des années 60, démarre cette grande crise économique internationale. Généralement, on dit c'est 73 avec la crise du pétrole, mais depuis, il y a eu des travaux d'économistes qui se sont penchés sérieusement sur le machin. En fait, ils ont montré que les entreprises commencent à avoir des problèmes dès la fin des années 60. Et c'est juste au moment où les entreprises commencent à avoir des problèmes qu'on commence à voir les transactions vers les paradis fiscaux qui se développent. Et au fur et à mesure que les entreprises rentrent dans les problèmes des années 70, au fur et à mesure, la place des paradis fiscaux monte. À tel point que la Banque des règlements internationaux, qui est une sorte de grande institution internationale qui est en Suisse, qui est chargée de surveiller l'évolution du système financier international, au milieu des années 70, elle commence à dire, tiens, là, nous, on surveille la finance mondiale. Il commence à se passer des choses bizarres dans les territoires, au niveau de la circulation de l'argent. On ne sait plus trop où l'argent va, qui le détient. Donc, ce rôle d'opacité des paradis fiscaux, il commence déjà à être repéré au milieu des années 70. Les entreprises ont essayé de récupérer, par du contournement réglementaire, par du contournement fiscal, ce qu'elles perdaient au niveau de leur activité traditionnelle, qui avait fait que pendant les 30 glorieuses, la période qui a suivi l'après-guerre, tout allait bien. À partir du moment où tout va un peu moins bien et pour certaines assez mal, elles ont essayé de récupérer par les paradis fiscaux ce qu'elles perdaient de leur activité traditionnelle. Et puis c'est devenu une habitude ensuite. Microsoft, par exemple, avec ses logiciels, ils sont installés, ils ont géré la propriété intellectuelle des logiciels pour toute l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient en Irlande, plutôt que de le faire aux États-Unis, parce qu'en Irlande, ils vont être taxés sur les rentrées des droits de la propriété intellectuelle à chaque fois qu'ils vendent des logiciels, ils vont être taxés à 10-12, alors que s'ils restaient aux États-Unis, ils seraient taxés à plus de 30. Donc c'est devenu une habitude aujourd'hui des multinationales. Il y a même eu un sondage qui a été fait à la fin de 2005 auprès des plus grandes multinationales mondiales qui montrait que les multinationales, quand elles inventent un nouveau produit, maintenant elles intègrent dès le stade de l'invention, c'est-à-dire le produit il n'est même pas là encore, c'est encore des plans sur la comète, mais dès le stade de l'invention, elles intègrent les capacités d'optimisation fiscale, comme des entreprises, qu'elles vont pouvoir développer pour savoir combien d'argent on va mettre, quel prix on va le vendre, etc. Donc maintenant, la stratégie d'utilisation ou d'optimisation fiscale, comme des entreprises, c'est-à-dire de pas payer le moins d'impôts possible, soyons clairs, c'est ça que ça veut dire, est intégrée stratégiquement dès le début de la conception d'un produit. Donc les paradis fiscaux maintenant sont au cœur de l'organisation du travail des multinationales au niveau mondial.
Mais on pourrait se dire que ce n'est pas moralement réprouvable, parce que ça a permis de le rétablissement des taux de profit ou des choses comme ça. Donc c'est bien, heureusement, qu'il y avait ça, parce qu'autrement, elles auraient été drôlement embêtées, les entreprises.
Alors, le problème, c'est qu'une entreprise fasse du profit, c'est très très bien. Mais à partir du moment où elle ne veut pas être taxée et contribuer à le redistribuer, c'est là que je trouve que c'est un peu moins bien. Et c'est l'idée qu'on essaie de défendre à la fin du bouquin, c'est que avec ces comportements offshore, ça a incité directement ou indirectement les grands États, ceux qui ne sont pas des paradis fiscaux, à s'aligner un peu vers le bas. Et dans l'Union européenne, c'est assez clair, hein, les taux d'imposition des entreprises, par exemple, au sein de l'Union, au sein de la zone euro ou au sein de l'Union européenne à 15, entre 95 et 2005, ils ont perdu 8 points de pourcentage. On est passé de 38% à 30% en moyenne. Hein. Cela dit, on pourrait se dire qu'on n'est pas les plus mal lotis, parce que là, ce sont les États-Unis qui ont été le plus loin. Si on mesure l'imposition des bénéfices des sociétés, hein, les profits des sociétés, aux États-Unis, aujourd'hui, maintenant, ça fait un peu plus de 2% du PIB. Un peu plus de 2% de la richesse nationale, 8% des recettes fiscales. Dans les années 60, c'était le double pour les deux chiffres, le double. Donc la pression fiscale sur les entreprises, depuis les années 60 aux États-Unis, elle a été divisée par deux. Par contre, les impôts sur les salaires, ça, généralement, ça n'a pas bougé. C'est toujours la même proportion. Donc on voit que tant que les entreprises fassent beaucoup de profits, c'est vraiment super. À partir du moment où elles jouent de ces mécanismes pour pas les redistribuer et que les recettes fiscales de tous les pays ne portent plus que sur nous, quoi, hein, sur les salariés, alors là il y a une disproportion qui se fait, qui n'est plus du tout équitable et qui nécessite une intervention publique.
Des sous et des hommes sur LYFM où les techniciens se tapent la tête contre les murs quand ils écoutent Jean Ferrat. Moi, je trouve ça délicieusement suranné, mais bon, on n'a pas les mêmes goûts. Hein. Et on est toujours en compagnie de Christian Chavagneux qui a écrit donc le livre, petit livre remarquable, vraiment une de vos lectures de l'été, j'espère, qui s'appelle « Les paradis fiscaux ». D'après ce que vous m'avez dit, par exemple, Londres est un grand paradis fiscal. Il y a quand même peu de chances qu'on réussisse à lutter contre de telles pratiques, contre des paradis fiscaux, si on a des aussi gros poids lourds que, par exemple, la Grande-Bretagne ou le Luxembourg, ou la Suisse. Enfin, je veux dire, les trois, ça doit être pas mal comme palmarès.
Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Hein. Il me semble que c'est le message d'optimisme qu'on essaye de faire passer dans ce livre, c'est qu'il se passe des choses au sein de l'Union européenne. Il se passe 3-4 choses qui sont même très très importantes. On a déjà évoqué le fait que il y avait des échanges d'informations et des retenues à la source, des impôts sur les petits bouts d'épargne qui sont placés au sein des pays européens. Mais ça, c'est seulement une chose. Il y a une autre chose. C'est que il y a eu aux alentours du début des années 2000 un travail qui a été mené en Europe sur les pratiques fiscales douteuses un peu des pays européens, et ça a donné lieu en 2003 à l'établissement d'un code de bonne conduite fiscale. Bon, qui est pas un traité international. Hein. Si les pays européens le mettent pas en œuvre, on va pas envoyer les troupes pour dire vous devez respecter le code de bonne conduite. Néanmoins. On a cet exemple un peu particulier de Guernesey, qui à partir de 2008 veut établir un nouveau régime fiscal qu'on appelle le régime fiscal du 0-10, c'est-à-dire zéro taxation sur toutes les entreprises, 10% sur les entreprises financières, et puis pour les gens de Guernesey, on verra, on fera des plafonds, enfin on s'arrangera. Un des grands cabinets de comptabilité internationale qui conseille Guernesey a dit attention, ça c'est une vraie discrimination importante entre tous les gens qui sont installés sur votre territoire. Avec certains, on va négocier, avec certains, on va faire zéro, avec certains, on va faire 10. Le code de bonne conduite européen l'interdit. On pourra vous attaquer au niveau international, notamment auprès de la Cour de justice européenne, parce que vous faites trop de distinctions entre les gens pour leur imposition. Et ça, le code de bonne conduite, il dit c'est pas bien. Chaque pays a le droit de définir ses règles fiscales comme il l'entend, mais il faut que tout le monde soit traité de la même façon. Or, ce que vous proposez, vous Guernesey, ça marche pas. Donc on voit bien que ce code de bonne conduite fiscale qui fixe des règles très générales, hein, c'est pas un traité, encore une fois, très formel, il n'a pas une vraie force politique. Néanmoins, quelque part, il est là, au-dessus de la tête des pays, ils peuvent plus faire n'importe quoi. Ils peuvent plus faire n'importe quoi, ça veut dire que si la France dit à partir de 2008. Dites donc, votre truc, moi, ça me va pas du tout, hein, que les entreprises aillent s'installer chez vous pour être taxées à 0%, ou que mes banques aillent chez vous pour faire du 10%. Je vais me plaindre auprès de la Cour de justice européenne. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Jusqu'en 2005, la Cour de justice européenne, elle disait, oh là là, il y a des traités européens, libre circulation des capitaux, tout le monde fait ce qu'il veut. Et puis en 2005, il y a eu une jurisprudence extrêmement forte qui a été confirmée en 2006 depuis, où la Cour de justice européenne a dit on n'a pas le droit d'établir des transactions au sein de l'Union européenne pour des motifs uniquement d'optimisation fiscale. On n'a pas le droit de le faire. Si vous êtes une entreprise, vous êtes organisé, vous avez plusieurs filiales, que ça correspond à une vraie activité, ok. Les États, ils ont le droit de rien dire. Mais si vous faites ça uniquement avec des filiales dans un coin où vous faites des gros profits au sein de l'Europe, hein, simplement pour des raisons d'optimisation fiscale, ça, on n'accepte pas. Ça, c'est une jurisprudence extrêmement importante. Extrêmement importante. Ça veut dire que les pays peuvent se plaindre maintenant auprès de la Cour de justice et que la Cour de justice va pas toujours dire « Oh, bah, libre circulation des capitaux, débrouillez-vous, les États, vous n'avez rien à dire. » Non, non. Aujourd'hui, les multinationales ou les riches qui, de manière trop ostensible, vont adopter des pratiques de minimisation fiscale au sein de l'Union européenne, elles vont être cassées. Et puis, il y a une dernière chose. Pour l'instant, c'est juste une proposition. Hein, il n'y a rien de concret. Mais la Commission européenne, elle propose d'avoir un seul impôt qui serait prélevé sur les multinationales au niveau européen. Quand vous êtes une entreprise française et que vous allez en Irlande pour minimiser, bah, vous payez, vous pouvez le faire parce que la filiale qui est en France paye des impôts en France et la filiale qui est en Irlande paye des impôts en Irlande. S'il y a un seul niveau d'imposition au niveau européen, on va harmoniser les taux. Donc ce sera sûrement entre le taux français et le taux irlandais. Mais là, vous ne pourrez plus jouer puisque tout le monde paiera la même chose. Tout le monde paiera le même taux, et puis en fonction d'un critère qui reste à déterminer, je parle le nombre de personnes employées, le chiffre d'affaires, le nombre de profits, on répartira ensuite ce qui a été prélevé au niveau européen, on le prélèvera entre les différents pays. Et ça, c'est une proposition politique qui est forte, parce que les prix de transfert dont on parlait tout à l'heure, où j'achète pas cher d'un côté, genre ça, on pourra plus le faire. Au sein de l'espace européen, on pourrait plus le faire, ça, s'il y avait un seul prélèvement au niveau européen. Et c'est une mesure politique qui est assez rigolote, parce que les libéraux disent... C'est très bien si on fait ça, parce qu'on va harmoniser les taux vers le bas. Ça va tirer les États qui imposent beaucoup, ils vont être obligés de baisser leurs impôts pour harmoniser. Les gens de gauche, à l'inverse, ils disent « Ouais, peut-être qu'on va être obligé d'harmoniser vers le bas. » Mais une fois qu'on n'aura plus qu'un seul impôt au niveau européen, le jour où on va vouloir l'augmenter, ce sera très facile. On n'aura plus à négocier à 15, on pourra l'augmenter tout de suite. Donc, et les libéraux qui pensent que ça va permettre d'harmoniser vers le bas, et les gens de gauche qui pensent qu'à terme ça va permettre d'harmoniser vers le haut les taux d'imposition sur les sociétés, soutiennent la mesure. Est-ce qu'elle va déboucher? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a cette piste sérieuse au sein de l'Union européenne qui permettrait d'encadrer, pas de faire disparaître, d'encadrer les pratiques fiscales douteuses des multinationales au sein de l'espace européen. Et ça, ça va dans le bon sens au niveau de l'Europe.
Est-ce qu'il ne pourrait pas partir au Caïman?
Alors, pas toujours, parce que ce qu'on voit aussi, par ailleurs, c'est que aux États-Unis, en Asie, en Corée du Sud, par exemple, en Australie, en Inde, surtout en Corée du Sud, en Asie et aux États-Unis aussi, les États nationaux commencent à se dire que on a peut-être été un peu trop loin dans la permissivité de la circulation internationale des capitaux, et notamment pour l'utilisation des paradis fiscaux. Donc il y a des politiques nationales fortes, un peu partout dans le monde, alors tout ça demande à être confirmé encore, hein. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a des politiques nationales fortes qui consistent à encadrer de plus en plus l'utilisation des paradis fiscaux par les riches, par les stars, par les multinationales. En Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est clair. Aux États-Unis aujourd'hui, ça commence à monter. En Corée du Sud, c'est clair. En Australie, c'est clair. Donc, plus en plus de politiques nationales visant à encadrer les paradis fiscaux. Et je crois que ce qui me permet d'être optimiste sur le fait que ce genre de politique va sûrement progresser, c'est qu'il me semble aujourd'hui que les grandes élites mondiales sont un peu revenues du libéralisme international. Le libéralisme a été vraiment idéologiquement la boîte à outils intellectuelle des années 80-90. Je crois qu'aujourd'hui, qu'il y a plein de signes, bon, ce sera un petit peu trop long à expliquer maintenant, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de signes qui laisse penser que cette boîte à outils a perdu un petit peu de sa prééminence. Je ne sais pas ce qui la remplacera demain. Néanmoins, aussi bien au niveau des économistes, qui généralement, des économistes dominants, qui généralement portent cette bonne parole, aussi bien au niveau du FMI et de la Banque mondiale, il y a des choses qui commencent à changer, aussi bien au niveau des politiques publiques, hein, les politiques publiques des États, dont on nous disait, plus c'est les forces du marché qui s'occupent de l'économie, mieux c'est, hein. Commence à voir que les États commencent à dire non, c'est pas si simple que ça, peut-être qu'une bonne politique publique d'intervention étatique, ça aussi ses avantages. Sans qu'il y a plein de signes, plein de petits signes comme ça, qui laissent à penser que le libéralisme, comme boîte à outils intellectuels, va devenir de moins en moins le référent. Et donc, de nouveau, les interventions de l'État vont être jugées intéressantes. Et il me semble que plus particulièrement les interventions de l'État pour encadrer la finance vont être considérées, vont être de plus en plus acceptées. Et dans ce cadre-là, je crois que les paradis fiscaux vont voir leur activité un peu mieux encadrée un petit peu partout dans le monde.
Oui, cette fois, le technicien est en train de manger le micro qui est devant lui. Tout va bien. Et nous, on est toujours en compagnie de Christian Chavagneux. Donc, j'ai aussi interviewé Denis Robert. Quelle est la place, justement, de Clearstream par rapport à tout ce que vous m'avez raconté sur les paradis fiscaux, là, finalement?
Clearstream, c'est une institution qui joue plusieurs rôles, dont le principal est de permettre aux titres financiers de bien circuler au niveau international, les actions, les obligations, tout ce que les grands banquiers, les grands investisseurs décident d'échanger au niveau international. Vous savez, à la fin des années 60, par exemple, si vous aviez un peu de sous, vous vouliez acheter un bon du trésor américain ou une action aux États-Unis, vous demandiez à votre banquier, qui écrivait à son correspondant aux États-Unis, le gars, il mettait l'action dans une enveloppe, il vous l'envoyait. Puis le temps que vous la receviez en France, vous l'aviez déjà revendu à un Japonais, qui l'avait déjà revendu à un Turc, qui l'avait déjà revendu à un Anglais. Donc des institutions comme Clearstream permettent de rendre tout ça beaucoup plus facile. Ce qui fait que dans les ordinateurs de Clearstream, il y a toute la mémoire de la mondialisation financière. Une grosse partie de la mémoire de la mondialisation financière. C'est des nœuds. À un moment donné, on est toujours obligé de passer par là quand on fait circuler l'argent au niveau international. L'argent, pas sous forme de cash, mais sous forme de titres financiers. Et donc, et qu'on passe par les paradis fiscaux ou pas. Parce qu'on passe, c'est des banques, normalement c'est des banques qui sont clientes de Clearstream, même si Denis Robert a montré que justement un des problèmes c'est qu'il n'y avait pas que des banques, alors que normalement il n'y a que des banques, bon, c'est un des problèmes. L'autre problème qu'il a montré lui étant qu'il y avait aussi éventuellement, d'après ce qu'il dit, il a trouvé des témoins expliquant qu'il y a une comptabilité un peu cachée, parallèle par laquelle passerait, a dit un de ses témoins, à peu près 15% des transactions, et par laquelle là passerait des choses peu bizarre, peut-être de l'argent, la corruption, l'argent mafieux, et puis plein d'autres choses un petit peu bizarres. Mais en tout cas, si on avait les moyens, si un juge avait les moyens de débarquer demain dans les ordinateurs de Clearstream et puis de regarder, il aurait toute une bonne partie de la mémoire du jour de la mondialisation financière. Ça permettrait d'identifier, de tracer ces flux financiers internationaux qui justement utilisent en partie les paradis fiscaux pour ne plus être tracés. Pour construire un petit peu d'opacité pour que plus personne ne sache à qui appartient l'argent et donc qu'on sache plus qui on doit taxer et qui on doit aller chercher si on veut essayer de taxer l'argent ou si c'est des mafieux qui on doit aller arrêter pour essayer de récupérer l'argent et les profits du crime. Et donc Clearstream, les autorités politiques luxembourgeoises ont tout fait pour que le voile d'opacité qui entourait Clearstream ne soit pas levé. Et donc ça a été tout le travail de tous les livres successifs de Denis Robert d'enquêter pour retrouver toutes les informations disponibles qui permettent de lever le voile. Alors bien sûr les autorités luxembourgeoises n'aiment pas ça du tout et ils se retrouvent avec huissier sur huissier sur huissier qui viennent l'embêter dans sa vie privée. Après c'est doublé, deuxième affaire, Clearstream, qui est une affaire politico franco-française, mais là qui dépasse le cadre de ce travail.
Vous, tout à l'heure, vous avez dit que 40% des transactions financières passent par des paradis fiscaux.
50%. Les multinationales dont on parlait tout à l'heure, quand elles investissent, un peu partout dans le monde, on s'est aperçu que 30% de leurs investissements allaient dans les paradis fiscaux. 30%. Donc c'est pas, et puis que ça montait depuis les années 90. Ce qui est sûr, c'est que même avec ces statistiques officielles dont on dispose, ils représentent au moins la moitié des activités internationales des banques. Et c'est déjà pas rien.
C'est-à-dire que par exemple, si je suis une entreprise et que je veux faire avoir un prêt, ça va passer par eux ?
Non, ça veut dire que si je suis une banque internationale, c'est-à-dire que je reçois des dépôts de gens qui ne sont pas de mon pays d'origine. Mmh. Ou si je fais des prêts à des gens qui ne sont pas dans mon pays d'origine. Je fais uniquement des choses au niveau international. Ou si je place de l'argent dans des bourses qui ne sont pas la bourse de mon pays d'origine. Ça regarde uniquement l'activité internationale des banques. La moitié se fait à destination de territoires qui sont des paradis fiscaux, quand c'est de l'argent que je place, et quand c'est de l'argent que je récupère en dépôt, la moitié vient de territoires qui sont des paradis fiscaux. Donc ça veut dire qu'ils jouent vraiment, au niveau de l'activité internationale des banques, ce sont aujourd'hui des infrastructures clés de la finance internationale. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que tuer les paradis fiscaux dans le monde, ça prend une minute. Il suffit que quelques grands pays écrivent sur un traité, sur une page blanche, toute transaction à destination et en provenance des paradis fiscaux est illégale. Alors, une fois qu'on a signé ça, bon, c'est comme quand on passe la montagne, hein, on a beau fermer les frontières, il y a toujours des petits chemins de chèvre par lesquels on peut toujours passer. Néanmoins, ce serait un tout petit flux par rapport au gros flot qui passe aujourd'hui. Mais personne ne veut faire ça, parce que si on fait ça, on tue la mondialisation financière, on tue les plus grandes banques mondiales, on tue leur capacité à prêter dans leur pays, on tue la croissance mondiale. Et à côté de ça, la crise de 29, c'est une partie de plaisir. Donc personne ne veut faire ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas envoyer cette bombe nucléaire sur les paradis fiscaux. Ils ont pris une place trop importante dans la façon dont les banques et dans les multinationales s'organisent au niveau mondial. On fait exploser l'économie mondiale si on tue les paradis fiscaux. C'est pour ça qu'il faut trouver peut-être des mesures qui sont insatisfaisantes pour les gens qui veulent se battre au jour le jour, mais on peut être que réformiste en matière de lutte contre les paradis fiscaux. On ne peut pas envoyer la cavalerie et les chars pour détruire les paradis fiscaux. Ça nous oblige, de par la place extrêmement importante qu'ils ont prise, si on ne veut pas faire sauter le système, à trouver les moyens politiques pour essayer de les encadrer petit à petit. On en a vu au sein de l'Union européenne et au sein de certaines politiques nationales que c'était possible.
Alors j'ai la question la plus sotte du siècle, parce que ce que vous dites là, c'est, je me dis, mais c'est, finalement c'est profondément immoral, finalement, ça, on ne va pas réussir. Mais les entreprises qui font ça, qui utilisent les paradis fiscaux, moralement parlant, ça ne leur pose pas de problème de ne pas payer un impôt pour permettre à, ben oui, par exemple à la France de se développer, parce qu'on leur offre quand même des infrastructures routières, l'enseignement qui permet qu'ils aient des personnes bien formées, etc., etc. Moi, je les trouve mignons de ne pas payer les impôts, mais pourtant ils s'en servent de nos impôts.
Jusqu'à présent, ça pose absolument aucun problème moral. L'élément d'optimisme qu'on a eu l'année dernière, c'est qu'il y a quatre grands cabinets de comptabilité internationaux qui aident les entreprises à utiliser les paradis fiscaux. Et tous les quatre, de manière non coordonnée, tous les quatre l'année dernière, ont envoyé un texte aux plus grandes multinationales qui sont leurs clientes en leur disant « Attention, le risque réputationnel, le risque de réputation que vous prenez quand vous êtes associé, quand votre produit est associé à des pratiques fiscales douteuses, il augmente. Les gens acceptent de moins en moins qu'on leur dise « Telle entreprise qui est une marque connue, ah bah regardez, on a encore trouvé que c'était des gros utilisateurs de paradis fiscaux, que c'était des fraudeurs, etc. » Le risque augmente. Donc tous ces gens qui vivent de la fraude fiscale en aidant les entreprises, toute l'année dernière, on dit « Attention, le risque de réputation maintenant, il devient de plus en plus grand. » Les gens acceptent de moins en moins éthiquement et moralement ce genre de comportement. Donc, pour eux qui vendent ces produits de fraude fiscale, si demain ils vendent des produits pour diminuer la fraude fiscale, ils se font toujours des grosses commissions. Donc eux, ils sont prêts vraiment à passer d'un côté ou de l'autre de la barrière, peu importe, du moment que ça leur apporte de l'argent. Mais si ça c'est vrai, c'est-à-dire que si du côté des multinationales on commence à se dire attention, être associé à des pratiques fiscales douteuses, ça devient dangereux, ça veut dire que la pression de la société civile, elle peut jouer un rôle important. Et que aujourd'hui, si on parle de responsabilité environnementale ou sociale des entreprises, si demain, grâce à la pression de la société civile, on avait un petit peu plus de pression pour en faveur d'une meilleure responsabilité fiscale des entreprises, ça pourrait peut-être jouer. Parce que le name and shame, comme disent les anglo-saxons, nommé pour faire honte, hein, en pointant du doigt des entreprises aux pratiques fiscales douteuses, peut-être que ça peut marcher.
Et oui, donc c'était Des Sous et des Hommes pour sa dernière émission de sa 5e saison. On était en compagnie de Christian Chavagneux qui a écrit un livre qui est absolument remarquable, très facile à lire, très très bien documenté. Ça s'appelle Les Paradis Fiscaux, c'est aux éditions La Découverte et dans la collection Repères. Je tiens à signaler à nouveau la possibilité que l'émission de Daniel Mermet, qui est une émission de France Inter, sans doute ne l'ignorez-vous pas. Donc il est question que cette émission soit déplacée de 17h à 15h. Or, pour qui est un peu attentif, on ne peut pas ne pas voir que c'est une émission qui est à gauche, voire même parfois franchement à gauche. Et il n'est peut-être pas anecdotique qu'elle soit justement déplacée juste avant la fameuse année électorale terrible de 2007. Vous pouvez signer en ligne une pétition, vous pourrez la trouver sur www.là-bas-entre-chaque-mot.org. Autrement, ben nous, on se retrouvera l'année prochaine pour la 6e année de Dissous, hein, une qu'il fallait peut-être quand même pas louper, justement à cause des échéances électorales. Ça ne fera sans doute pas contrepoids à tout ce qu'on pourra sans doute entendre sur les grands médias, mais bon, petite pierre à l'édifice. ça peut pas faire de mal. Je vous rappelle que vous pouvez écouter pendant les vacances, pendant toutes les vacances, tous les jours, à petite dose, les émissions de Dessous qui sont en archive sur le site. C'est www.dessousetdeshommes.org. Vous avez aussi là toutes les transcriptions. Ça vous fait à peu près 800 pages de lecture. Bon courage et puis surtout, bonnes vacances. Et effectivement, je tiens absolument à remercier, parce que je ne le fais jamais et j'ai tout à fait tort, tous les techniciens qui ont participé à l'élaboration de ces émissions pendant 5 ans. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, il y en a un ici dans le studio. Je les remercie tous très chaleureusement. Et puis à Ligre aussi.